54.
Lèvres rouges, comme hypnotisé, regarde fixement la pile de carnets Moleskine. Enfin, il lève les yeux vers Pete. Il lève aussi le revolver.
Allez-y, dit Pete. Tirez, et vous verrez ce qui arrivera au carnet quand je lâcherai le briquet. J'ai versé l'essence sur le dessus, mais elle a eu le temps de s'infiltrer jusqu'au centre. Et ils sont vieux. Ils vont flamber comme une torche. Et peut-être tout le bordel qu'il y a ici avec.
C'est une impasse mexicaine, alors, dit Lèvres Rouges. Le seul problème, Peter, et je me mets dans tes godasses, là, c'est que mon revolver va tenir plus longtemps que ton briquet. Qu'est-ce que tu feras quand il s'éteindra ?
Il essaie d'avoir le ton calme du mec qui gère la situation, mais ses yeux n'arrêtent pas de faire du ping-pong entre le Zippo et les carnets. Les couvertures de ceux du dessus luisent d'un éclat humide, comme de la peau de phoque.
Je saurai quoi faire le moment venu, dit Pete. À la seconde où la flamme commencera à baisser et virera au bleu, je le lâcherai. Et là, vouf !
Tu le feras pas.
La lèvre supérieure du loup se soulève, découvrant ses dents jaunes, ses crocs.
Pourquoi non ? C'est que des mots. Comparé à la vie de ma sœur, c'est que des conneries.
Ah oui ?
Lèvres rouges oriente le revolver sur Tina.
Alors éteins ton briquet, ou je la tue sous tes yeux.
À la vue du revolver pointé sur le ventre de sa sœur, des mains de fer étreignent douloureusement le cœur de Pete, mais il ne referme pas le Zippo. Il se penche, l'abaissant très lentement vers la pile de carnets.
Vous saviez qu'il y a deux autres romans du cycle Jimmy Gold là-dedans ?
Tu mens !
Lèvres rouges garde le revolver pointé sur Tina, mais ses yeux sont de nouveau attirés, c'est plus fort que lui apparemment, vers les carnets Moleskine.
Il y en a qu'un, ou il part vers l'ouest.
Deux,
répète Pete.
Le coureur part vers l'ouest, eh bien, mais le coureur relève le drapeau et ce qu'il a écrit de meilleur. C'est un long roman aussi, une épopée.
Ça serait dommage que vous puissiez jamais le lire.
Les joues pâles de l'homme sont en train de s'empourprer.
Comment oses-tu ? Comment oses-tu me provoquer ? J'ai donné ma vie pour ces livres. J'ai tué pour ces livres.
Je sais, dit Pete.
Et puisque vous êtes un si grand fan, voici une petite gâterie pour vous. Dans le dernier bouquin, Jimmy retrouve Andrea Stone. Ça vous fait quoi ?
Les yeux du loup s'agrandissent.
Andrea ? Il la retrouve ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vu les circonstances, cette question est au-delà du bizarre. Mais elle est aussi totalement sincère, honnête. Pete se rend compte que cet Andrea de fiction, le premier amour de Jimmy, est plus réel pour ce type que ne l'est sa sœur. Aucun être humain n'est plus réel pour Lèvres Rouges que Jimmy Gold, Andrea Stone, Monsieur Meeker, Pierre Rotton, surnommé aussi le vendeur de voitures de la perdition, et tous les autres. C'est sûrement un indicateur de profonde et authentique folie. Mais dans ce cas, ça fait également de Pete un fou, parce qu'il sait ce que ressent ce cinglé. Il sait exactement ce qu'il ressent. Il a été embrasé par la même excitation, saisi par la même incrédulité, lorsque Jimmy a aperçu Andrea dans Grand Park pendant les émeutes de Chicago. En 1968. Des larmes lui sont même montées aux yeux. Ces larmes-là, Pete s'en rend compte. Oui, il s'en rend compte juste à cet instant. Surtout à cet instant, car leurs vies y sont suspendues. Ces larmes sont l'indicateur du pouvoir suprême de la fiction. Ce même pouvoir qui a tiré des larmes à des centaines de milliers de gens, apprenant que Charles Dickens était mort d'une attaque. Le même qui, durant des années, a poussé un inconnu à venir poser une rose sur la tombe d'Edgar Allan Poe tous les 19 janvier, jour de l'anniversaire de Poe. Le même aussi qui conduirait Peter à haïr ce type, même s'il n'était pas en train de braquer un revolver sur le ventre vulnérable et tremblant de sa sœur. Lèvres rouges a ôté la vie à un grand écrivain. Et pour quelle raison ? Parce que Rothstein avait osé suivre un personnage dans une direction que désapprouvait Lèvres rouges.
Oui,
c'était exactement ça.
En le tuant,
il avait obéi à sa croyance intime, que l'écriture est en quelque sorte plus importante que l'écrivain. Lentement et délibérément, Pete secoue la tête.
Tout est dans les carnets. 16 pour le coureur relève le drapeau. Vous pourriez le lire ici, mais comptez pas sur moi pour vous en dire plus.
Pete se fend même d'un sourire.
Pas de spoiler. Les carnets sont à moi, espèce de salaud, à moi.
Ils vont se transformer en cendres si vous laissez pas partir ma sœur.
Pitou, je peux même plus marcher, gémit Tina.
Pete peut pas se permettre de la regarder. Il doit seulement regarder Lèvres Rouges, seulement le loup.
C'est comment votre nom? Il me semble que je mérite de le savoir.
Lèvres Rouges hausse les épaules, comme si ça n'avait plus d'importance.
Maurice Bellamy. Jetez votre revolver, monsieur Bellamy. Faites-le glisser sous la chaudière. Une fois que vous aurez fait ça, je fermerai le briquet. Je détacherai ma sœur et on s'en ira. Je vous laisserai plein de temps pour vous enfuir avec les carnets. Tout ce que je veux, c'est ramener Tina à la maison et emmener ma mère aux urgences.
Et je suis censé te faire confiance ? Ironise Lèvres Rouges. Pete abaisse encore le briquet.
Faites-moi confiance ou regardez les carnets brûlés. Décidez-vous vite. Je sais pas quand mon père a rechargé ce briquet pour la dernière fois.
Du coin de l'œil, Pete voit quelque chose bouger. Quelque chose dans les escaliers. Il n'ose pas regarder. S'il regarde, Lèvres Rouges regardera aussi. Et je le tiens presque, se dit Pete. C'est bien ce qu'il semble. Lèvres Rouges commence à abaisser le revolver. L'espace d'un instant, chaque ride de son visage accuse son âge, et plus. Puis il relève l'arme et la pointe à nouveau sur Tina.
Je la tuerai pas.
Il a le ton catégorique du général qui vient de prendre une décision stratégique cruciale.
Pas tout de suite. Je lui tirerai d'abord dans la jambe. Comme ça, tu pourras l'entendre crier. Si tu mets le feu au carnet après ça, je lui tirerai dans l'autre jambe et ensuite dans le ventre. Elle mourra, mais elle aura largement le temps de te détester d'abord, si c'est pas déjà...
Un double claquement retentit sur la gauche de Maurice. Ce sont les chaussures de Pete qui viennent d'atterrir au bas des marches. Maurice, sur la défensive, pivote dans cette direction et tire. Le revolver est petit, mais dans l'espace clos du sous-sol, la détonation est puissante. Pete sursaute malgré lui et lâche le briquet. On entend un « ouf » explosif, et les carnets du sommet de la pile se coiffent soudain d'une couronne de feu.
« Non !»
hurle Maurice en tournant le dos à Hodges qui dévale l'escalier à sa rencontre, si vite qu'il manque perdre l'équilibre. Maurice a Pete en droite ligne. Il lève le revolver pour l'ajuster, mais avant qu'il ait pu tirer, Tina propulse tout son corps vers l'avant à l'extrême limite de ses liens et lui décoche un coup de son pied valide à l'arrière de la jambe. La balle passe entre le cou et l'épaule de Pete. Les carnets, pendant ce temps, brûlent avec vigueur. Hodges rejoint Maurice avant qu'il puisse tirer à nouveau et se saisit de la main tenant le revolver. Hodges est le plus lourd des deux et il est en meilleure forme physique, mais Maurice Bellamy est doté de la force de la folie. Ils décrivent une valse saoule à travers le sous-sol. Hodges maintenant le poignet droit de Maurice de telle sorte que le petit automatique soit dirigé vers le plafond. Maurice se servant de sa main gauche pour griffer Hodges au visage, tentant de lui arracher les yeux. Pete contourne les carnets à toute vitesse. Il flambe maintenant, alors que s'embrase l'essence qui s'est infiltrée au cœur de la pile. Et s'attaque à Maurice par derrière. Maurice tourne la tête, montre les dents et essaie de le mordre. Ses yeux roulent dans leurs orbites.
« Sa main ! Attrape sa main !»
crie Hodges. Ils sont arrivés en titubant sous l'escalier. Le visage de Hodges est strié de sang. Plusieurs lambeaux de chair pendent de sa joue.
« Attrape sa main avant qu'il m'écorche vif !»
Pete attrape la main gauche de Bellamy. Derrière eux, Tina hurle. Hodges envoie son poing dans la face de Bellamy à deux reprises. Deux solides uppercuts. Voilà qui semble l'achever. Son visage devient flasque et ses genoux se dérobent. Tina continue à hurler et le sous-sol s'illumine de plus en plus.
Le plafond, Pitou! Le plafond prend feu!
Maurice est à genoux, la tête baissée. Du sang jaillit de son menton, de ses lèvres et de son nez cassé. Hodges saisit son poignet droit et le tord. On entend un craquement lorsque le poignet de Maurice se rompt, laissant choir le petit automatique qui tombe à terre en cliquetant. Hodges a juste le temps de penser que c'est fini, quand le salopard, d'un geste brusque du tranchant de sa main libre, le frappe dans les parties. Hodges sent son ventre s'emplir d'une douleur liquide. Maurice détale entre ses jambes écartées. Hodges hoquette, mains en coquille sur son entrejambe qui le lance.
« Pitou, Pitou, le plafond !»
Pete pense que Bellamy court récupérer son revolver, mais le type dédaigne complètement son arme. Son objectif, c'est les carnets. Ils flambent à présent comme un feu de joie. Leur couverture rebiquant, leurs pages brunissant et faisant monter des étincelles qui ont enflammé plusieurs bandes de l'isolant qui pendouille. Le feu commence à se propager au plafond, laissant choir des serpentins embrasés. L'un d'eux atterrit sur la tête de Tina, et une odeur de cheveux roussis s'ajoute à l'odeur de papier et d'isolant carbonisé. Avec un cri de douleur, Tina secoue la tête pour s'en débarrasser. Pete court vers elle, expédiant au passage le petit automatique à l'autre bout du sous-sol d'un coup de pied. Il tape sur les cheveux de sa sœur pour les éteindre, puis recommence à se bagarrer avec les nœuds.
« Non !»
hurle Maurice, mais ce n'est pas à Pete qu'il s'adresse. Il tombe à genoux devant les carnets, tel un zélote devant un autel où flambe un brasier. Il plonge la main dans les flammes, cherchant à atteindre le cœur de la pile. De nouveaux essaims d'étincelles montent en spirale vers le plafond.
« Non, 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 non !»
Hodges voudrait courir vers Pete et sa sœur, mais tout ce dont il est capable, c'est de tituber comme un ivrogne. La douleur dans son entrejambe est en train de se propager à ses jambes, amollissant des muscles qu'il a bossé dur pour raffermir. Il arrive malgré tout à les rejoindre et s'attaque à l'un des nœuds du câble orange. À nouveau, il regrette de ne pas avoir de couteau, mais il faudrait plutôt un tranchoir de boucher pour sectionner ça. Costaud, cette connerie. Merde. D'autres bandes d'isolants enflammés tombent autour d'eux. Hodges les frappe de la main pour en protéger la fillette, terrifiée à l'idée que sa tunique en mousseline prenne feu. Le nœud est en train de céder. De céder enfin, mais la gamine se débat.
Arrête, Tini, lui dit Pete.
De la sueur ruisselle sur son visage. L'air dans le sous-sol commence à être brûlant.
C'est des nœuds coulants, tu les resserres, arrête de te débattre.
Les cris de Maurice se changent en hurlements de douleur. Hodges n'a pas le temps de le regarder. La boucle sur laquelle il tirait vient de céder brusquement, et il entraîne Tina, main toujours liée derrière le dos, à l'écart de la chaudière. La sortie par l'escalier s'annonce impossible. Les marches inférieures brûlent déjà, et celles du haut sont en train de prendre. Les tables, les chaises, les cartons de documents, tout est en train de brûler. Maurice Bellamy aussi. Son blazer et la chemise qu'il porte en dessous sont en flammes. Pourtant, il continue de fouiller au cœur du brasier, tentant d'atteindre les quelques carnets encore intacts au bas de la pile. Ses doigts commencent à noircir. Malgré la douleur, qui doit être atroce, il continue. Hodges a le temps de penser au conte dans lequel le loup descend par la cheminée et atterrit dans un chaudron d'eau bouillante. Sa fille Allison refusait qu'il lui lise cette histoire. Elle disait qu'elle était hors...
Bill! Bill! Par ici!
Hodges aperçoit Jérôme à l'une des fenêtres du sous-sol. Il se rappelle avoir pensé « On ne peut pas vous faire confiance ». Et il est soudain ravi de constater que c'était faux. Jérôme est à plat ventre, il leur tend les bras par la fenêtre.
« Soulevez-la! Soulevez-la que je l'attrape! Dépêchez-vous! Vous allez tous griller !»
C'est Pete, presque à lui tout seul, qui emporte Tina vers la fenêtre ouverte, à travers des gerbes d'étincelles et des écharpes d'isolant en flammes. L'une d'elles atterrit sur les épaules du garçon, et Hodges la balaye de la main. Pete soulève sa sœur. Jérôme l'attrape sous les aisselles et la tire dehors. La prise du câble d'ordinateur dont Maurice s'est servi pour lui attacher les mains se balançant et cognant derrière elle.
« À toi maintenant !» souffle Hodges.
Pete secoue la tête.
« Vous d'abord !»
Il lève les yeux vers Jérôme.
« Tu tires, je pousse !»« Ok, dit Jérôme. Levez les bras, Bill !»
Pas le temps de tergiverser. Hodges lève les bras et se sent empoigné. Il a le temps de penser. On dirait qu'on me passe les menottes. Puis il se sent hissé vers le haut. Lentement d'abord, il est beaucoup plus lourd que la fillette, mais soudain, deux mains se plaquent fermement sur son cul et poussent. Il s'élève et débouche à l'air libre et clair. Chaud, certes, mais nettement plus frais que celui du sous-sol, et atterrit près de Tina Saubers. Jérôme tend à nouveau les bras par la fenêtre.
« À toi, petit, dépêche !»
Pete lève les bras, et Jérôme lui saisit les poignets. Le sous-sol est en train de se remplir de fumée, et Pete se met à tousser, presque à en vomir, tandis qu'il cède de ses pieds en pédalant contre le mur. Il glisse à travers l'ouverture et se retourne pour plonger le regard dans le sous-sol. Un épouvantail carbonisé y est agenouillé, fouillant parmi les carnets en feu avec des bras de flamme. Le visage de Maurice est en train de fondre. Il pousse un cri strident et se met à serrer contre sa poitrine embrasée les restes brûlants et fumants de l'œuvre de Rothstein.
« Regarde pas ça, petit !» dit Hodges en posant une main sur son épaule. « Regarde pas !»
Mais Pete veut regarder. Il a besoin de regarder. Il pense « Ça aurait pu être moi, là, en train de brûler. » Il pense « Non. Parce que je sais faire la différence. Je sais ce qui compte. » Il pense « Mon Dieu, je t'en prie, si t'es là, fais que ça soit vrai. »